Salut tout le monde, c'est Fitz. Bienvenue dans notre premier podcast de l'année. Un nouveau projet qui me tient vraiment à cœur. Je suis vraiment content de commencer ça. Et pour l'occasion, j'ai un ami qui va participer à, je pense, pas mal tous mes podcasts parce que Kevin, il est vraiment dedans. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo. C'est Kevin. Kevin, je te laisse te présenter.
Salut tout le monde. Vraiment excité de commencer ce projet-là. C'est tellement bien de pouvoir dire qu'on a une passion puis on veut vouloir la partager avec vous autres. On veut apprendre plein de choses. On veut faire... On veut s'épanouir avec vous autres pour que vous ayez le goût de cette passion-là autant que nous, on peut l'avoir. Moi, je suis un débutant de la bière de micro depuis les années 2000 et que graduellement, j'ai commencé à découvrir des nouvelles choses. J'habitais à Chambly et que j'étais juste à côté de la micro d'Unibrew.
Et Benoît de Médoron, on salue en passant. Salut Nico, si tu nous écoutes.
Puis à cette époque-là, ben, tu pouvais sentir le mou continuellement quand c'était en train de faire. Et quand j'ai commencé comme ça, graduellement, puis là, j'ai un de mes chums à qui j'ai commencé à travailler, qui m'a initié vraiment plus savoir qu'est-ce qui était sur le marché environ en 2008. Puis à partir de là, ben, le goût a commencé à vouloir en voir plus, de découvrir les nouvelles choses qui venaient de sortir sur le marché. Là. Et cette partie-là était... une nouvelle passion qui a commencé. Et que par la suite, mais à force de discuter, on a décidé de vouloir se lancer dans la brasserie pour essayer d'expérimenter, de connaître ça. Puis j'étais comme un peu tout le monde au début. Je me suis acheté... Non, à part toi, Fit, je sais. Moi, j'ai commencé avec un Festa Brew.
Pas moi, j'ai commencé tout grain.
C'est ça. Donc, on commence avec le mou, on a fait des petites affaires. J'ai commencé à pouvoir maîtriser mes équipements. On a passé par la suite au l'extrait de malt, puis après ça, par le tout grain.
Vous pouvez commencer maintenant tout grain. Le grandfather est là pour vous aider. Vous gagnez 3 ans d'expérience avec le grandfather. Qu'est-ce qui est merveilleux? Et la fabrication de bière, c'est beaucoup mieux qu'acheter de la bière. Malgré qu'on a des méchants bons produits au Québec, je trouve que fabriquer sa propre bière, c'est fabriquer quelque chose pour soi. Et on trouve tout le temps meilleur parce que... on peut rajouter le petit côté coriandre qu'on aime dans blanche un petit peu plus ou un petit peu moins si on aime moins ça. Qu'est-ce que t'en penses, mon Kev?
Ben moi, je trouve ça très gratifiant parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager avec nos amis. Puis moi, tout ce que j'arrive à faire, puis après ça, tu invites le monde. Tout le monde sont contents de pouvoir partager une belle passion avec eux autres. Et que oui, essayez des nouvelles affaires, là, vous allez triper.
Fait que pour le monde qui nous écoute et qui se demande où qu'on s'en va avec nos podcasts, c'est super facile. Il va y avoir plusieurs parties dans les émissions. On voulait faire une partie dégustation de bière. Alors, pour l'occasion, présentement, on a Ça coule à flot à la prairie qui nous a apporté une bière chaque, qui se trouve être la Ghost de Noctem. Par la suite, pendant qu'on a notre bière à déguster du magasin Ça coule à flot, on va vous présenter le style de bière en considération de la bière qu'on va boire. Alors, aujourd'hui, c'est une Ghost. On va vous présenter le style de Ghost. Demain, ça pourrait être une Pale Ale. On va vous présenter le style de Pale Ale. Et ainsi de suite dans les émissions, vous allez découvrir les styles de bière qui existent et qu'on va déguster. Puis si jamais on a un style qui est pareil, ben on reviendra sur le style avec un petit peu plus de détails. C'est le but de vous apprendre à connaître un style de bière. Et j'ai aussi le goût de développer plus encore avec le style. Ça veut dire qu'on va dire si la bière est dans le style. Pas parce que la bière n'est pas dans le style qu'elle n'est pas nécessairement bonne. Fait, à notre connaissance, avec la normalisation des bières qui existent, on va ajuster la bière qu'on boit en considération de si on ferait un concours et de notre connaissance et de notre palais. On n'a pas tout le même palais et ça va être vraiment intéressant. Si vous avez le goût de le faire, le même exercice, vous allez avoir le style, vous allez avoir la couleur, qu'est-ce qu'il faut que ça goûte, le malt feat et l'amertume. Alors, vous pouvez faire en même temps que nous ou plus tard, si vous êtes dans l'auto, buvez pas de la bière en l'auto en passant, non? Ouais, la police aimera voir ça. Fait que vous pouvez aussi comparer vos goûts avec nos notes et nos feuilles de dégustation. Qu'est-ce qui serait super plaisant. Dans les podcasts aussi, on va vous présenter des méthodes de fabrication de bière. Fait que des fois, on va plus aller vers le mash. Pourquoi mâcher plus haut? Pourquoi mâcher plus bas? Nos expériences qu'on a eues dans le passé, soit réussite. Ça arrive des fois qu'on fait des échecs aussi. Mais la manière d'apprendre, c'est de se tromper, malheureusement. Alors, on va vous montrer un peu aussi les sortes de touris. On va vous expliquer les touris, les sortes de fermenteurs plutôt que les touris. Kevin, Présentement, tu as 4 touris à vendre que j'ai vu.
Oui, j'ai décidé d'upgrader avec le temps. Le but était de tout contrôler les températures, d'avoir un meilleur produit plus stable. Et qu'à partir de là, mes touris de vite, moi, je passe à d'autres choses. Je suis rendu avec des fermenteurs coniques que je peux contrôler ma température avec un refroidisseur au glycol. Et qu'à partir de là, on vient d'améliorer graduellement une meilleure qualité de produit.
Ça veut dire que Kevin a commencé avec des touris. On aurait pu commencer avec des fast fermenters, on aurait pu commencer avec des fermentosaurus. Il aurait pu aller avec juste un fermenteur en stainless et pas contrôler sa température. Alors, dans les prochains podcasts, on va parler vraiment du matériel, pourquoi Kevin veut contrôler sa température. Un exemple, si vous ne le savez pas, ou à quel point ça peut être important. Fait que ça va être un petit peu la fabrication. On va avoir un volet aussi qu'on a déjà des partenaires qui sont intéressés, des certaines microbrasseries qui seraient intéressées à faire des podcasts avec nous. Fait qu'on va probablement en faire avec quelques microbrasseries. Si tu as une microbrasserie et tu nous écoutes, tu es au Québec, tu as le goût de participer avec nous, on est tout le temps ouvert. Si tu es à Outre-mer ou un petit peu trop loin pour te déplacer ou qu'on se déplace, on pourrait le faire par Skype aussi. Ça se fait super bien. Fait que ça permet de peut-être les Français qui nous écoutent, qui ont des micros, je sais qu'il y en a 2-3 qui nous écoutent présentement. Si ça vous tente, vous êtes les bienvenus. On prend un rendez-vous ensemble. Puis je pense que ça va faire plaisir à Kevin aussi de vous connaître.
Ah, pareillement. Nous, de goûter, c'est une grosse communauté internationale. Avec l'amour de la bière, ça se partage avec tout le monde. Fait que on est rendu à notre dégustation.
Exactement. Fait que pour l'occasion, on a la Noctem faite à Québec, mesdames et messieurs. Et pour vos informations à vous qui nous écoutez, nous sommes aussi sur YouTube dans la section du brasseur, section podcast. Ils vont tous être disponibles présentement. Alors, si vous voulez voir la bière qu'on boit, vous allez juste aller la voir en vidéo et elle va être disponible. En passant, si vous aimez les chats, je vous conseille fortement d'acheter leur bière parce que toutes leurs étiquettes sont faites avec des faces de chat. Puis je trouve ça vraiment trop cool.
Ah, il aime les bébés à poil, c'est bon,
ouais,
ça.
Jasmine. Fait qu'on rouvre ça. Et on verse ça dans notre verre présentement. Je suis désolé pour le monde qui ne nous voit pas. C'est ça. Première constatation, c'est quoi, Kevin?
Un très beau collet. La couleur est jaune brouillé.
C'est peu limpide. Hein? C'est vraiment jaune. Mais je vois pas mes doigts à travers présentement. Je mets ma main comme ça. Là. C'est assez jaune.
Fait que si on en regarde au niveau de la normalisation du style, on parle de la norme du BJCP, qui on peut retrouver le modèle de la gauze en la
onglet. C'est quoi, Kevin, le BJCP?
Le BJCP, c'est un regroupement de brasseurs qui ont refait chaque style de bière pour pouvoir faire des barèmes à respecter pour reconnaître le type de bière.
Fait que si je gagne un concours, c'est-tu eux qui...
Généralement... C'est eux les juges qui vont pouvoir tester les concours pour pouvoir dire si oui ou non ta bière est à fit dans le profil.
Fait que si je veux faire une bière, je suis mieux d'aller voir la normalisation pour savoir quel style de bière que je fais.
Si on veut la respecter, puis c'est un exemple, on est dans l'industrie de la production. Moi, si je m'en vais acheter une bière à un dépanneur ou à une épicerie ou chez Ça coule à flot, quand je veux acheter une gauze, je m'attends à que ça goûte quelque chose de particulier. Et que si on fait de la production, que je recette une bière, puis ça goûte une IPA ou ça goûte d'autres choses, moi, je vais être déçu parce que c'est pas ça que j'ai voulu acheter.
Moi aussi.
Fait que, comme on a pu voir ici, de la gauze est faite avec du blé. Et que c'est pour ça ici qu'on voit que généralement, c'est très, très brouillé.
Normalement, c'est une genre de blanche qu'on va mettre plus acide un petit peu.
Oui.
On va saler un peu.
La particularité de la gauze, c'est justement que ça soit acide et salé. C'est une acidité pas trop forte, pas comme exemple la Bernard Neuweiss, qui est une très beaucoup plus acidulée. Et le sel est présent, mais pas prédominant.
Mmh. Et au nez, présentement, qu'est-ce que tu peux sentir? Moi, vraiment, note de citron.
Mais justement, sur l'étiquette.
Sorbet de citron.
Citron confit.
Confit, oui.
Et que c'est eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé de mettre les citrons dans le sel pour pouvoir aller extraire puis les rajouter dedans. Qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que souvent...
C'est marqué sa canette, ça?
En loba.
C'est marqué sa canette?
C'est marqué sa canette.
Ah, cool! C'est marqué sa canette. Ça, c'est vraiment le fun aussi que le monde prenne le temps de nous expliquer comment ils ont fait leur bière.
Et non des secrets à savoir est-ce que ça goûte ça, parce qu'oubliez pas qu'on n'a pas tous le même palais. Et que chacun va goûter quelque chose, il peut avoir des choses différentes, mais vu qu'ils ont utilisé les ingrédients qu'ils nous expliquent, mais on peut essayer de comprendre le goût qu'on a.
Et si vous êtes brasseur, ben vous pouvez essayer de le refaire si vous avez aimé la bière. C'est tout le temps le fun de refaire une bière qui a été déjà faite. Si vous êtes professionnel, vous faites pas ça, hein? Vous copiez pas les autres.
Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le citron, souvent dans les aliments, on voit un citron un petit peu artificiel. Là, on goûte vraiment le vrai citron. Et c'est vraiment le fun. Moi, je fais la comparaison un peu quand tu vas dans une fête foraine puis qu'ils te font une limonade fraîche pressée. C'est l'association que je vis. C'est très rafraîchissant. Puis, ben moi, je suis bien heureux à boire ça. Merci.
C'est super bon. Je veux encore remercier Sacco Laflo. C'est un magasin qui vend de la bière de microbrasserie. Je pense qu'ils n'ont pas de bière commerciale dans leur boutique.
Je n'ai pas vu aucune.
Ils ont aussi, de mémoire, ils ont des sauces piquantes, puis ils ont une mini épicerie fine aussi.
Oui.
Fait que si vous voulez, si vous ne connaissez pas Sacco Laflo, c'est à La Prairie, sous le boulevard Tachereau. À La Prairie, pas loin de la Magdalene, un petit peu en diagonale. C'est super facile à trouver dans une nouvelle bâtisse. Petit fait cocasse, le brasseur a failli être dans le même local. J'avais vérifié au début pour ce local-là à louer et j'ai changé d'idée. J'ai trouvé un local plus près de chez moi qui me convenait mieux. Fait que je vous dis que le local est vraiment beau parce que j'ai failli le louer. Je veux aussi dire merci à, je pense que c'est Maxime, un des propriétaires, qui a pris le temps de parler beaucoup avec Kevin pour la collaboration qu'on a eue. Fait que merci beaucoup, Maxime, du temps que tu as pris. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, prendre du temps pour des pubs, des petites choses comme ça, là, c'est des fois, on n'a pas vraiment le temps. Tu as pris quand même une bonne heure à parler avec Kevin, puis je sais comment il est plate à parler. Là. Fait que c'est vraiment gentil de ta part de nous avoir permis de déguster les produits que tu vends à ton magasin.
Oui, puis c'est vraiment le fun de voir que c'est pas nécessairement tous les produits qui sont faciles à accessibles d'avoir, parce que vu que ça vient de Québec, vous avez des gens de Québec qui vont justement les emmener à votre boutique. Fait que c'est des produits très le fun. Moi, j'ai été justement cet été à cette microbrasserie-là. J'ai très apprécié, l'ambiance est bonne, j'ai goûté à plusieurs de leurs bières, puis j'ai très apprécié mon expérience.
Fait que pour revenir à nos moutons ou à nos chats dans ce cas-ci... Jeu de mots poche. Premièrement, je veux parler de la canette. On a parlé un peu du goût, goût confit. On a le petit goût salé, mais vraiment subtil. J'ai vu des gosses vraiment, vraiment, vraiment plus salées que ça. Mais c'est une belle entrée de gamme en passant. Si vous n'avez jamais pris une gosse, je vous le conseille fortement si vous voulez savoir quel est le type. Mais revenons à ma canette. Je trouve l'image vraiment attrayante. Plein de couleurs, c'est super beau. C'est vraiment, t'as vraiment le goût de la prendre dans tes mains, puis t'as vraiment le goût de l'ouvrir, puis vouloir la sentir. Puis en plus, quand tu sens la canette, ben, quand on la rouvre, évidemment, ça sent vraiment le citron.
Oui, c'est très, très proéminent, mais en vraiment même temps, le goût reste longtemps en bouche. C'est oui, pas comme si c'est, ouais. C'est un petit goût qui disparaît rapidement, mais sans dire que ça devient désagréable. Et qu'une fois que tu as fini ton verre, ça se boit assez facilement pour dire « Oh, je vais en prendre un autre » parce que c'est pas pesant. C'est très bon en alcool aussi. Ça fait partie du style. Celle-là ici est de 3.
Non, ça, c'est le quantité de
3,5% d'alcool.
Fait que 3,5% d'alcool, on peut en prendre plusieurs avant de conduire. Au moins une dizaine ou une douzaine. S'il y a des policiers qui nous écoutent, c'est une blague. Hein? On n'en prend pas une douzaine. On s'ouvre dans l'alcoolmètre qu'on a acheté avant.
C'est une belle achat et une belle initiative. Sécurité avant tout.
Ouais, fait que pour revenir à notre style de bière, comme on disait, c'est un style de blanche. Style de blanche dit blé et dit pilsner d'habitude, ou deux rangs, si vous aimez mieux. On va mettre souvent du 50-50, ce qui va donner la couleur un petit peu trouble. Dans le blanche, souvent, on va mettre de la coriandre. Alors, dans le style de gosse, la coriandre est quand même présente. J'y goûte vraiment pas présentement. Le citron est vraiment, vraiment prédominant. Là. C'est incroyable à quel point que je goûte juste le citron. Le côté surette, il est caché beaucoup, beaucoup vers le citron. Un citron, c'est quand même sûr. Fait que ça nous fait passer la chose un petit peu plus facilement. Et le petit côté salé fait que je suis plus capable de lâcher mon mou d'hiver depuis tantôt, que j'arrête pas d'en boire. Alors, c'est facile à finir une canette, là, je dirais. Là.
Ben, pour moi qui est capable de finir un sac de chips, j'ai pas besoin de sac de chips, je suis super content.
Oh, monsieur, il est plus salé que sucré!
Je suis bien heureux. Une chose à savoir sur les gosses, l'amertume versus l'acidité rentre en conflit. Et que quand on a une bière qui est amère, il y a pratiquement zéro amertume dedans. Sinon, ça va jurer, puis ça sera pas un bon...
Ça va faire...
Oui, c'est un minimum de quelques petits morceaux de houblon qu'on va mettre dedans. C'est quasiment plus par principe que d'autres choses parce que...
Faut pas faire une grutte.
Ah. Oui,
On reviendra sur le style de gruite. Je sais que monsieur Terroir fait une bonne gruite. Gruite, je pense. Whatever. C'est une bière qui n'a pas de doublon dedans. C'est les cervoises que les Vikings buvaient. Hein? Team Viking, tout le monde ensemble. Alors, je demanderai à monsieur. Je pense que ça coule à flot une longue, je l'ai déjà vu à leur place. On essaiera d'en prendre une pour vous déguster ça éventuellement pour un prochain podcast. On parle un peu de style aujourd'hui, on parle un peu de bière aujourd'hui en général. On va pas rentrer dans la technicalité. Ah, exactement. C'est pour ça que j'ai pris quelqu'un qui parle mieux que moi pour faire les podcasts. C'est plus facile à comprendre. T'sais, moi, je peux marquer d'habitude dans mes vidéos quand je suis pas capable de le dire. Là, si vous êtes en train de conduire, vous n'allez pas voir vraiment ce qui est sur la vidéo, puis ça va être un peu plus difficile.
Tu vas le couper au montage.
On va le couper au montage de toute façon. Fait que, oui, puis on va le faire 3-4 fois pour être sûr d'être capable de le dire comme du monde. Que... Mais pour revenir à nos styles de bière, moi, qu'est-ce que j'aime par-dessus tout, c'est que quand j'achète une bière, d'avoir le bon style sur ma canette. T'sais. Si tu connais pas ton style ou si tu veux réinnover, ben marque une blanche.
Ou bien tu peux dire style de et non que ça soit exactement ça, dans le genre de...
Non, 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 même pas. Tu marques la couleur. Je sais que le monde n'aime pas marquer une couleur sur une bière. Là, dire j'ai une blanche, une rousse, une IPA. Une IPA, ouais, c'est ça, une IPA, c'est un style comme j'ai une voiture, tu sais. Qu'est-ce que tu veux boire? Ah, une IPA. Ah oui, mais quelle sorte d'IPA, mon petit garçon? Je ne sais pas, une IPA, là, quelque chose d'amer. C'est pas mal d'avoir une IPA d'habitude. T'sais.
Mais les branches encore là des IPA sont très larges.
Exactement. Fait que c'est pour ça qu'il faut être plus spécifique. Mais moi, quand je vois boire un exemple, je sais pas moi, une rousse, puis que j'ai innové et rendue brune, tu peux pas appeler ça une Irish Red Ale. On s'entend que tu n'es plus vraiment dans le style. Là. Fait qu'il faudrait un petit peu respecter les styles. Puis si vous vous rendez compte que c'est marqué un exemple, Irish Red Ale dessus, puis elle est noire.
Posez-vous des questions.
Ben, c'est peut-être pas le bon style. Fait qu'essayez d'autres bières avant de juger un style en particulier. Tu sais, une Scotch Ale, ça n'a pas 8% d'alcool, ça a 4% d'alcool. Une Navy Scotch Ale, ça a 8% d'alcool. Puis beaucoup de monde présentement dit « Ah, j'ai bu une Scotch Ale à 8 ou 9% d'alcool. » C'est même pas une Scotch Ale, mon petit garçon.
Oui, ça me fait penser, quand tu parles que les gens, des fois, n'aiment pas la bière, puis le kit, l'idée de ne pas aimer la bière... C'est que des fois, les gens n'ont pas l'expérience, la connaissance. Que des fois, justement, ils ont été mal conseillés de un, ou des fois, ils ont essayé quelque chose, puis donc, ils ont fait l'allusion « j'aime pas la bière ». C'est quelqu'un qui te dirait un exemple « hey, t'as-tu un bon vin à me conseiller ?» Ben, du vin, c'est du vin.
Mais la bière, si tu veux aimer la bière, là, si tu m'écoutes, puis ta femme n'aime pas la bière, là, à part, dis pas une personne, là, c'est clair qu'elle va détester ça, là, parce que souvent, quand on n'aime pas la bière, on catégorise la bière par les pilsners, justement, parce que les grosses brasseries industrielles, je n'y nommerai pas pour leur faire la publicité, mais Molson et Labatt, ils font beaucoup de pilsners puis beaucoup de lager pilsners. C'est des bières. Puis en passant, le monde qui nous écoute, qui nous dit que ça goûte la pisse, là. Et si votre pisse goûte ça, vous avez un esti de problème. Là.
Je sais que c'est fantastique.
Ils brassent vraiment bien, ces grands brasseurs-là. La preuve, c'est qu'ils ont environ 80% des parts du marché. Là. Si ça goûterait la pisse, il n'y a personne qui achèterait ça. Fait que trouver un autre, ça peu de goût, je suis d'accord avec ça.
Non, mais après ça, c'est une question de goût. Écoute, si un exemple, on parle de Heineken, Corona, c'est toutes des bières qui sont skunkées, qui ont un goût de moufette, mais c'est leur particularité. Puis si les gens aiment ça, c'est une question de goût. Et qu'à partir de là, on ne peut pas dire qu'une fois qu'on a goûté ça, j'aime pas la bière. Non, on n'aime pas ça. On a des choses, des fois, qu'on peut découvrir que c'est une belle introduction.
Ben, comme je te disais tantôt, 80% de la bière qui est vendue au Québec, probablement, c'est de la Molson et de la Labatt. La macro-brasserie, des grosses brasseries professionnelles. Alors, si la personne, ta femme ou ton ami ou toi, t'aimes moins la bière un peu, essaye d'aller, ça a l'air bizarre à dire, là, mais essaye d'aller boire des stouts. Puis là, le monde va comme, man, stout, t'es malade, man, y a personne qui aime ça. Vous saurez que la stout, puis après, je vais te dire, bois-la chaude, mais là, pas mis dans le faux micro-ondes, là, on s'entend, là.
Tablette.
Bois-la chaude, tablette, un petit peu plus frais. Puis tu vas te rendre compte que ta bière, elle va sortir des goûts de chocolat, des goûts de café torréfié, puis c'est plein de bons goûts que ça coûte pas la bière. Là. On s'entend qu'on est loin de la Pilsner des macro-brasseries là, au Québec, là, ou des macro-brasseries du monde entier au complet. Là.
Ben, j'ai initié ma grand-mère avec ça. Ma grand-mère n'est pas une fan de bière, mais elle aime les cafés. Elle
salut, mamie, en passant, si tu nous écoutes.
Bonjour, mamie! Fait que j'y avais amené justement une stout au café. Elle tombe en amour avec ça. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois que je la vois, mais j'y en amène une. Puis elle est très heureuse. Là.
Fait que c'est bien déguster leur bière. Tu sais, on parle de style de bière. On parle de leur bière aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petit truc 101, plus qu'elle est pâle, plus qu'elle se boit froide. Tu sais, la moins 1 là, de. On on nommera pas le nom encore, là, mais les publicités qu'on voit à la radio et à la télé, des moins 1, ça se voit à moins 5 degrés, la montagne, es-tu bleu, es-tu rouge, es-tu mauve, es-tu orange, es-tu multicolore? Ben, pour son style de bière, il a raison. T'sais, on peut pas leur dire qu'ils sont des caves, là. C'est... ils ont raison en disant que cette bière-là se boit beaucoup plus froide. Mais suffit-toi pas à ça pour boire ta Guinness, un exemple, si tu bois de la Guinness, là. Elle va se boire un petit peu plus chaude, ta Guinness, là.
Mais la Guinness, c'est un autre exemple que les gens font de l'association de une bière noire. On dirait que c'est la seule qu'ils connaissent, peut-être parce qu'ils ont vu ça dans les restaurants, et qu'ils disent « Ah, j'aime pas ça, la bière noire. » Ouais, mais la Guinness, elle a un goût particulier. Et que c'est pas que c'est bon ou mauvais, c'est une question de goût. Mais on peut pas associer un style de bière que toutes les bières goûtent la même chose.
Non, exactement. Puis une bière noire, on va parler un peu de fabrication. Là. Il y a plusieurs sortes de grains torréfiés qu'on peut exister. Il y a du Midnight Wheat qui est un blé torréfié qui va goûter, mais pas trop. Il va avoir du blé chocolat, on va avoir du Roasted Barley, on va avoir du Black Malt, on va avoir du Carafa spécial type 1, Carafa spécial type 3, Carafa spécial type 2, Carafa 1, Carafa 2, Carafa 3 et chocolat pâle, chocolat foncé. Toutes les malteries qu'on a vont malter différemment. Ça veut dire le nombre de temps qu'ils vont passer dans le four et leur recette en tant que telle pour faire le rien torréfié. Et après ça, le nombre de minéraux qu'on va mettre dans notre eau va varier le goût de la bière parce que 80% de la bière est faite de...
de l'eau!
Eh oui, 80% de la bière est faite de l'eau. Fait que vous êtes des buveurs d'eau, incompris! C'est vrai. Fait que le fait que tout ça va changer vraiment, même si c'est une bière de type un exemple au café, ça ne veut pas dire que le brasseur a mis du café dedans. Puis en plus de ça, il y a certaines brasseries qui vont rajouter du café. Je pense à Dieu du ciel présentement qui fait une bière excellente au café. La
Péché mortel.
Exactement. Puis alors, ils ont passé à partir des fûts, ils font des affaires spéciales avec, du café plus torréfié. Ils font plein de tests avec. C'est vraiment super bon comme bière. Puis c'est souvent une des premières bières que j'ai connues. Le monde dit « Ah, c'est vraiment bon, une bière noire! » Puis ils me parlent tout le temps de la...
Dieu du ciel!
Péché mortel! Fait que c'est des bières vraiment bonnes. Si vous n'avez jamais goûté, là, allez au dépanneur, ça coule à flot. Hein? C'est là qu'on va pour chercher notre bière. Et prenez une petite Péché mortel, vous allez voir, c'est super. Alors, à part les styles de bières comme ça, on peut aussi avoir des New England IPA. Dans le style que quelqu'un qui aime moins la bière qu'on parlait tantôt, une New England IPA, ça goûte vraiment les fruits tropicaux, les fruits de la passion. Et la levure va faire en sorte que ça ressemble vraiment à un jus d'orange souvent. Et on peut mettre du triomphe pour avoir le goût d'orange dans sa bière. Fait que ça va aider beaucoup les petites madames ou les petits messieurs qui aiment moins la bière. Tu sais, ça aide beaucoup à les faire passer.
Ben, c'est une nouvelle façon de s'initier aussi. Moi, j'ai toujours comparé l'amertume d'une bière à de la sauce forte. Si tu n'es pas habitué à prendre quelque chose de piquant, si tu n'es pas habitué à prendre quelque chose d'amer, tout ce que tu vas goûter, tu vas faire « Oh, c'est amer, c'est pas bon. » Mais en fin de compte, tu n'es pas habitué avec ça. Et celui qui prend pas de piment, ben, d'habitude, il va prendre à peine quelque chose, puis il va dire « Ah! »
Je trouve ça cheap en maudit, Kevin, que tu fasses passer tes messages dans notre podcast présentement.
C'est que c'est un goût qui se développe. Ça veut pas dire qu'on va aimer ça nécessairement. Il y a des gens qui vont jamais aimer des bières amères. Aussitôt. Mais c'est un goût.
Pas ma faute.
Non, qu'est-ce que tu veux. Écoute, même principe que
je suis capable d'apprécier quand même. Je suis capable d'apprécier une bière qui est bien faite. Je suis capable d'apprécier une bonne New England IPA ou une bonne IPA. C'est pas mon style à moi particulièrement. C'est pas quelque chose que je vais être porté à brasser par moi-même, si vous voulez. Je vais le brasser pour les autres, puis je vais autant m'appliquer, parce que c'est pour ma blonde que je fais ça. T'amour, je t'aime. Et je vais en boire une fois de temps en temps pour me remettre dans le bain, tu sais, les nouvelles nouveautés pour goûter. Il y a une boutique, le brasseur, hein? Si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous me voyez, vous m'attendez. Fitz le brasseur, boutique Adelson. En ligne aussi pour le reste du monde qui ne peuvent pas se déplacer à Delsun pour la vente de matières premières et d'équipements. Si vous êtes sur le podcast, on a un YouTube. Présentement, on est filmé. Alors! Fait que c'est ça. Il faut que je me mette un peu à tout le temps à regarder les nouveautés qu'on a parce que sinon, on ne peut pas conseiller quelqu'un s'il me dit « Hey, t'as-tu goûté la Bas Canada, la Tabarnakos? » Puis « Ah non, j'aime pas ça. »« Ah, oh, mais j'aimerais ça faire comme si au blanc. »« Ah, c'est de la merde faire ça. » Parce que tu n'aimes pas le style, tu peux pas dénigrer un style en particulier.
Ben, après ça, on va faire... Toi, tu vas faire des recherches. Tu vas aller, des fois, il y a des nouvelles nouveautés, des innovations au niveau de la technique, la façon de brasser, comment faire. Tu sais, l'histoire de New England IPA, puis après ça, avec les houblons qu'on mettait pendant la fermentation.
T'es pas ça plus que 3 jours, ça va goûter le gâton. J'ai passé du temps à dire ça à du monde là, quand j'ai commencé à brasser. Ah non, pas plus que 3 jours dans le fermenteur, ça va goûter le gâton.
Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qu'on arrive à apprendre et qu'en fin de compte, en faisant des tests, puis plus qu'on a d'expérience, plus qu'on est capable de donner des bons conseils.
Mais tu sais pourquoi là, que ça a changé, hein? Pourquoi qu'on a plus de technologie aujourd'hui? Pourquoi qu'on a plus de moyens? Moi, je fais partie d'une association qui est de brasseurs professionnels. Okay? Puis cette association-là recule v'là 10 ans ou v'là 20 ans. On était combien de brasseries au Québec ou en Amérique du Nord?
Écoute, au Québec, à part les gros joueurs, après ça, tu as Unibrew qui était là, qui était comme révolutionnaire, entre parenthèses, au Québec, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça.
Il n'y a pas beaucoup, là. Fait que calcul en Amérique du Nord, mettons qu'on était 10 000 ou 100 000. OK? Le chiffre a quadruplé ou 10 fois plus gros, même plus que ça. Ça veut dire que le monde qui font partie, puis on fait quasiment toute partie de cette association-là, ou une association qui en font partie, fait qu'on a beaucoup plus d'argent à mettre en tant qu'association, comme membre. On met beaucoup plus d'argent pour les études. Alors, les nouvelles études et les nouvelles choses n'arrêtent pas de sortir à tous les jours sur la bière. C'est exponentiel le nombre d'informations qui est disponible présentement sur le marché. Contrairement à là, 10 ou 20 ans que on en faisait une ou deux grosses études, puis c'était tout. Là. Aujourd'hui, il peut y en avoir 10 en même temps parce qu'on a les moyens de le faire, on a l'argent pour le faire.
Puis à la différence, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, les gens veulent savoir, ils veulent apprendre. Fait que avant, on va toujours se fier à ce que quelqu'un disait. Maintenant, on va le mettre au défi. On va tester, c'est-tu vrai, c'est-tu pas, c'est-tu encore à jour?
Exactement.
Et qu'à partir de là, on peut pas prendre pour du cash tout ce qui est sur le marché pour dire, hey, on a fait ça pendant 50 ans, c'est toujours ça. Oui, mais juste un exemple, au niveau du mash, avant, on avait plusieurs paliers qu'on faisait. Maintenant,
on le fait plus parce que les malteurs font notre job.
Bien, les malteurs font un produit beaucoup supérieur à ce que c'était auparavant.
Alors, si on revient un peu en arrière puis on dit, on veut brasser comme dans le temps, mais Inomal fait un malt pilsner traditionnel, le trad, qui est malté comme dans le temps. Fait qu'il faut que tu fasses des paliers, des décocs. C'est fait vraiment pour des styles allemands. Alors, le malt, il est moins modifié que son pils normal ou moderne, comme qu'il l'appelle. Et c'est super le fun à travailler parce que tu vas travailler avec des tu vas avoir d'autres sortes de goûts un peu. C'est plus protéinique, c'est... On fera un podcast avec Raphaël, si tu nous écoutes, ça serait super intéressant. Puis il pourrait nous expliquer vraiment la grosse, grosse différence chimique entre les deux, tu sais. Mais pour travailler avec, il faut que tu fasses soit des décox ou des paliers, comme Kevin disait tantôt. Fait que le système de brassage que tu vas utiliser va varier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va donner plus de corps à ta bière.
Fait que d'un malteur à l'autre, chacun a leur propre recette. Puis justement, quand on n'est pas habitué, il faut avoir un bon équipement justement pour être capable de faire des paliers. Il faut contrôler sa température d'empattage.
D'empattage. Aussi, ce qui est important à savoir, c'est que la matière première, comme le grain d'orge, ben, c'est le deuxième ingrédient qui va venir en majorité dans sa bière. T'sais. Ça veut dire que peu importe où qu'il vient à travers le monde, il a ramassé les minéraux qu'il y avait dans le sol. Parce que l'orge, c'est une plante. La plante se nourrit du sol et des minéraux qu'on a et le taux d'ensoleillement qui est disponible aussi, le taux d'humidité. Et tout ça va faire en sorte que l'orge qu'on prend dans notre bière, c'est le fruit de la plante. Right?
Oui.
Alors, le fruit va vraiment varier beaucoup. Fait qu'on va avoir de l'orge qui vient du Québec. Mais là, si elle pousse, mettons ici à Delison, ou elle pousse à Sherbrooke, ou elle pousse au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou elle pousse... nos amis de la Côte-Nord, ben, on n'a pas la même sol, on n'a pas le même taux d'ensoleillement, puis on n'a pas le même atmosphère dans l'air. Fait que l'orge ne sera pas pareil, elle ne goûtera pas la même chose. Là, on parle juste du Québec.
Puis ça, on parle vraiment de tout ce qui est végétal vivant, parce que le houblon, c'est le même principe, c'est la même histoire. Vu que ça pousse dans le sol,
ouais.
Tout dépendant des minéraux qu'ils ont dedans, on peut avoir un exemple, un Zaz de la Tchécoslovaquie, puis un Zaz des États-Unis. Ça ne donnera pas le même résultat, même si la souche est la même. Avec le malt...
Ça prend 1 gallon d'eau par plant pendant sa croissance. Fait qu'imagine le nombre d'eau qu'il y a dedans. Dans l'eau, il y a les minéraux, puis il y a le goût aussi. Fait que ça veut dire que ton houblon va vraiment absorber beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau et beaucoup, beaucoup des minéraux qui sont présentement dans le sol. En passant, le houblon, là, c'est une mauvaise herbe. Hein? Si vous n'avez déjà mis dans votre jardin et vous n'avez pas fait attention, là, ça se répand comme dans la mauvaise herbe.
C'est une plante grimpante qui revient à chaque année, puis que si vous ne faites pas... Non, c'est intense comme résultat, mais ça sent bon.
Oui, c'est vraiment bon, par exemple. Ouais, c'est vraiment une belle plante à pousser. Puis, pour le monde qui veut peut-être économiser un peu de sous en disant « Je vais faire pousser mon houblon », il n'y a aucune économie à faire, les boys. Là. Les seuls houblons qui sont disponibles, c'est ceux qui sont pas chers présentement sur le marché. Là. Le Cascade, là, c'est pas le houblon le plus cher au monde. Là. Par contre, si on veut faire une bière de jardin comme moi je faisais, c'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Je vous conseille pas de faire votre malte, mais le houblon, ça vaut vraiment la peine. T'sais. Pas obligé de faire ta leveur non plus. Là.
On c'est une expérience. Une question d'expérience. On est rendu là, on va essayer quelque chose de différent. Allez, amusez-vous.
C'est
là.
Dangereux, faire du mal temps.
Non, non, je parle du houblon. Moi.
Ah oui, le houblon. Ouais, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Venez, faites attention. Là. Qu'est-ce que tu dis? Là? Hein? Du monde qui nous écoute. En tout cas, j'espère qu'il y a du monde qui nous écoute. Puis pour revenir à nos styles de bière, quand on crée un style de bière, si on brasse, un exemple, une Pilsner, ben la Pilsner, ça vient pas mal de Tchécoslovaquie ou d'Allemagne. Fait qu'on devrait prendre des grains qui viennent de cette place-là pour être le plus possible dans le style. Puis on va prendre des houblons qui viennent dans ce style-là. Et avec qu'est-ce qu'ils vont brasser? C'est des houblons nobles. Des houblons nobles, c'est quoi? C'est des vieux houblons.
Qui est là depuis très longtemps. Puis qui
ouais,
sont
pas
encore
vieux
très
en âge, dit, en voulant dire que...
Ça existe depuis longtemps.
Exactement. C'est une variété, les premières variétés qu'on commence à brasser avec. Si on veut faire quelque chose de bien, ben on est aussi bien de prendre les ingrédients qui sont disponibles. Ça, je parle pour faire une Pilsner. Si tu veux faire une blonde, une bière blonde, puis tu as décidé de mettre du citra dedans avec du Simcoe ou de l'Amarillo, mais à petite base, juste pour que ça goûte, mais sans que ça vienne trop amer, c'est correct. Tu as le droit de le faire, puis c'est bon aussi. Mais tu peux pas appeler ça une Pilsner.
Ouais, c'est beaucoup de choses quand on apprend après les styles. Si vous lisez justement dans les BGCP, qu'est-ce qu'on avait parlé, les barèmes, vous allez avoir aussi...
En passant, je veux pas te couper, là.
Mais non, ça paraît pas.
Ah, ça, je veux vraiment pas te couper, mais si vous savez pas où le trouver, il est disponible sur Internet. Il y a une application aussi qu'on peut télécharger. Et toutes les informations sont aussi disponibles sur Bill Smith. Là. Ça l'a dit, mon Kevin?
Hey, je n'ai pas entendu parler. Ben, Colin, hey, merci de me le dire.
Fait que oui, c'est ça, lire sur votre style, c'est vraiment important. Comme qu'on a décrit la bière de la gosse tantôt, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le style, on va aller lire sur le style, on va vérifier le style que c'est. On en connaît déjà beaucoup général, sans être particulièrement dedans. Fait qu'avant de déguster une bière, que je veux savoir si le style est bon ou juger une bière pour mes intérêts personnels, autant les miennes que ceux de mes clients que ceux de mes amis. Kevin? Alors, je vais lire sur le style de la bière. Puis, je vais prendre des gorgées, je vais sentir, puis je vais aller tranquillement pour déguster en prenant tout le temps des notes. Aujourd'hui, on n'a pas pris de notes parce qu'on t'apprend à faire un podcast en même temps, puis ce serait comme plate de faire oui, c'est bon, c'est good. Ouais. Puis là, vous me voyez écrire, mais vous voyez rien, vous entendez rien. Ce serait un petit peu plate pour vous autres de nous écouter de même.
On va essayer de rendre ça intéressant pour tout le monde. Là.
Mais en même temps, vous avez l'opportunité de nous voir en train de ou nous entendre en train de déguster puis de juger la bière dans le style. Puis cette bière-là, je le dis tout de suite, je l'adore vraiment beaucoup. Si certaines personnes pensent que j'exagère, mon verre est quasiment vide, ma canette est vide, puis j'ai en ligne scène à Kevin présentement. Mm-hmm.
C'est juste parce qu'on a beaucoup de jasettes, que tu sais, normalement, je bois plus vite que ça parce que j'apprécie, mais en même temps, c'est comme, bon, ben on peut pas tout faire en...
Non, on peut pas tout faire en même temps, mais que bonne cette bière. Pour revenir à nos styles de bière, encore une fois, je sais pas si j'ai des capsuleux qui nous écoutent. Capsule bière, allez boys! Essayez donc de dire que c'est pas de la merde la bière que vous êtes en train de boire. Tu sais, faites juste dire « je l'aime pas parce que dans le style, c'est supposé être ça, puis elle goûte pas ça. » Parce que moi, quand je vois juste « ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, ça, c'est pas bon, ça, c'est de la merde, ça, c'est pas bon, ça, c'est écœurant. » Essayez donc de dire que ça goûte pour commencer. Puis si vous êtes capable de décrire, si vous l'aimez pas la bière, ça se peut que vous l'aimez pas la bière, mais ça se peut qu'il y ait une autre personne qui va te lire, qui va faire « hey, moi, ce goût-là, ça m'intéresse, j'aimerais ça goûter à ça. » Fait que vous allez, au lieu de détruire des microbrasseries, puis quand vous détruisez des microbrasseries, vous détruisez des jobs, puis des familles, puis du monde qui ont travaillé fort pour arriver où est-ce qu'ils sont. T'as le droit de pas aimer leurs produits, peu importe la microbrasserie. T'as le droit de pas aimer la bière, peu importe la microbrasserie. Mais ce serait le fun pour le monde qui nous écoute ou qui te lit, puis savoir pourquoi t'as pas aimé la bière, puis se créer une opinion par rapport à ça.
Parce qu'il y a une grosse différence entre « j'aime pas une bière parce que je l'aime pas », c'est pas à ton goût à toi, ou bien est-ce qu'il est mal fait, ou bien est-ce qu'il est pas dans le style. On fait des choses carrément, c'est deux branches à part.
Qu'est-ce qui serait le fun aussi, là, au lieu de démolir la bière, si, mettons, elle goûte le botch, là, j'ai pas de bière qui me vient en tête, là, mettons que ça goûte le botch. Là. qu'au lieu de marquer sur capsule ou sur Internet, astute bière de marde qui goûte le bot, ben, tu devrais peut-être juste aller appeler un micro, envoyer un courriel, dire j'ai goûté tel numéro de l'eau, telle bière, telle date, puis je trouve qu'elle a un goût de cendrier. Est-ce que c'est normal?
Tu sais, on veut apprendre, puis les gars sont super ouverts en plus, les gars de microbrasserie, parce que le but, là, on a une business. Tout le monde a une business.
C'est pas de l'argent avec sa bière, c'est pas de la cracher aux poubelles.
Oui, mais ils ont travaillé corps et âme là-dessus, avec en bout de ligne. S'il y a quelque chose, mais comme n'importe qui, si on lève le flag, peut-être qu'eux vont faire des recherches, ils ont des laboratoires, ils vont pouvoir voir. Ça se peut qu'il y ait une erreur, parce que tout le monde est humain, puis même les meilleurs brasseurs peuvent faire des erreurs.
Mm-hmm. J'en ai fait des erreurs.
Ouais. Il l'a avoué. Il va couper ça au montage aussi.
C'est clair, ça va être coupé au montage. Non, mais c'est que si tu veux apprendre, tu fais des erreurs. Puis dans le micro, ils peuvent pas goûter tout leur lot, là. Puis des fois, c'est même pas dû à la personne qui a brassé. Ça peut être dû à la façon qu'elle a été mise en bouteille. Ça peut être dû à la façon que la personne l'a entreposée. Tu sais, si j'amène une New England IPA ou si j'amène une bière très houblonnée à mon détaillant de bière, puis la met au soleil, ça se pourrait que ma bière soit goûte le skunk. Qu'elle aille goûter un peu la moufette, puis c'était pas ça le but, c'est à cause des rayons ultraviolets, et la bière a été mal entreposée. Ça coule la flot, le feront pas parce que c'est une boutique très spécialisée qui connaît la bière de microbrasserie. Mais souvent, on va voir ça dans des petits dépanneurs qui commencent à rentrer de la bière de microbrasserie, qui connaissent peu ça, puis il y a une fenêtre à côté, ils vont les mettre directement à la lumière du soleil. Un, elle réchauffe énormément la bière. Deuxièmement, elle va goûter le skunk parce que le houblon va devenir. Je sais pas comment ils appellent ça quand il vient skunky, là, le houblon, là, à cause des lurérons ultraviolets, un peu comme Heineken ou
Corona.
Des fois, c'est même pas la brasserie. Fait que la brasserie va être vraiment contente que tu l'appelles pour dire « Hey, cette bière-là, elle goûte un peu bizarre, puis d'habitude, elle goûte pas ça, ou j'ai vraiment pas aimé ça parce que ça goûte de la moufette. » Puis le gars va dire « Hey, dude, man, c'est pas supposé de goûter la moufette, là. » Fait que je vais aller la chercher ma bière chez eux, puis je vais aller vérifier, puis je vais en acheter un autre à un autre détaillant pour voir si ça goûte la même affaire. Le problème, c'est-tu mon lot ou c'est l'entreposage du magasin? Puis peut-être cette personne-là ne voudra plus aller emporter s'ils ne sont pas capables de bien entreposer leur bouteille comme du monde à l'abri de la lumière.
Non, parce qu'en quelque part, c'est leur nom. Et que s'il y a un problème avec un endroit, c'est pas nécessairement le produit, parce que eux, les gens qui vont essayer ça, qui disent « Hey, j'aime pas la bière, mais je n'en jetterai plus », mais ça veut pas dire que la bière était pas bonne.
Exactement.
C'est circonstanciel à un endroit ou au moment. Souvent, au début, quand je cherchais la brasserie de Dunham, il y a plusieurs années, puis j'ai fait une recherche sur Internet, j'étais dans un petit dépanneur, puis je pense que la bière, ça veut faire un an et demi qu'il y avait ça. Pas au froid, pas dans rien. La bière était très ordinaire, très plate.
Exactement.
Mais si j'aurais pas regardé la date, porté attention, eux, je suis convaincu qu'ils ont fait un excellent job. Le produit que j'ai goûté était très moyen parce que, justement, elle était mal entreposée et elle avait un an et demi.
Puis c'était pas une bière qui était due pour vieillir. Ça, on en refera un podcast, si vous voulez, sur les bières à vieillir. Ça pourrait être vraiment intéressant. Quand on parle de bière mal vieillie, quand on fait des tonneaux, des barriques de bière, là, tu sais, c'est pas tout le temps supposé de goûter sour si c'était pas supposé de goûter sour. Là. C'est pas la barrique qui fait faire que ça goûte sour, c'est une bactérie, ça, là. Fait que si c'est pas marqué comme quoi c'est une sour barriquée, peut-être pas supposé de goûter sour.
Il y a beaucoup de techniques, des petites choses qu'il peut faire un petit à côté. Il y a beaucoup à savoir dans les étapes, justement, de barrique. Des choses différentes qu'on fait. On veut dire « Hey, je vais faire ça, ça a l'air le fun ». Il faut vraiment prendre en considération tout ce que ça implique. Avec un exemple, j'ai fait, oh, regarde, qu'est-ce que ça implique? J'ai fait un beau casque. C'était merveilleux.
Ah oui, vous ça. On a, pour le monde qui nous écoute, on a la communauté du brasseur qui est disponible aussi. Vous pouvez aller vous inscrire sur Facebook. La communauté du brasseur, c'est une communauté pour partager le monde brassicole. Que tu sois dégustateur, que tu sois fabricant, que tu as le goût de faire de la bière, que tu n'agites, que tu veux juste partager avec toi, que tu n'es pas obligé de mettre la recette. Là. Tu prends une photo puis tu dis qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, ça va me faire plaisir. Tu es fier de la bière que tu as faite ou du casque que tu as raté comme mon ami Kevin. Hein? Ben, dis-nous ça, Kevin, qu'est-ce qui s'est passé avec ton beau casque?
Ben, probable. Ma théorie, c'est que, un, soit que mon bouchon était mal fermé, deux, ma fermentation n'était peut-être pas finie. Et que le résultat a fait que pendant que la fermentation continuait pour la carbonisation dans mon casque, mon bouchon a décidé de se pousser.
Boum! Un beau 20 litres sur son beau plancher de bambou.
Oui, il n'y a rien de plus le fun de passer à mop quand c'est que ton petit pied fait...
En passant, c'était une stout. Là. La mop était rendue noire. As-tu mis une photo de ta mop? Oui, t'as mis une photo de ta mop.
Oui,
tu m'as envoyé à moi?
Non, j'ai mis une photo de ma mop, mais en fin de compte, c'est après avoir rincé plein de fois. Puis, était dû nettoyer la pièce, on dirait, là, que là, tout était...
Mais ça a été enrichissant quand même pour toi. Là. T'as su, à quelque part, que quand tu vas faire un prochain cast, tu vas le mettre dans un gros plat de Tupperware.
Hey, ben, c'est juste une façon de prévenir au cas où. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et entre ça et ramasser 20 litres à la mop, je fais juste des sons de même. On apprend par expérience.
Juste pour te dire, Kevin, puis au monde qui nous écoute présentement, moi, j'en ai fait un cast. Puis quand j'ai vu ta photo, ben, le lendemain, je suis allé voir si mon bouchon était encore là. T'sais, c'est question de... Là, c'est pas pour me vanter, là, mais moi, tout était en ordre, tout était beau, tout est bien parfait.
Fait que t'as mis ton casque environ un mois plus tard que moi. Le mien, ouais. Ça faisait un mois et demi qu'il était dans mon casque, qu'il était prêt, que ça t'a encore le temps d'exploser.
Je penserais pas, moi. Parce que ma bière était faite depuis un certain temps, puis je suis sûr qu'elle avait fini de fermenter.
Oui, un petit peu de ça aussi.
J'ai mis aussi 7 grammes de dextrose par litre, puis ça, je suis sûr et certain que c'est correct pour mon casque. Ça va pas exploser non plus quand je vais mettre le bouchon. On va faire une vidéo quand on va ouvrir les casques. On va attendre que mon ami Kevin refasse son caf. Fait qu'il va refaire une petite bière, il va la remettre dedans. Puis c'est sûr et certain qu'on va vous montrer ça en vidéo. Quand on rouvre les casques, ça peut nous exploser dans la figure. Si vous avez jamais vu ça, marquez casque explosion sur YouTube. Là. Ah, c'est merveilleux.
Bon, mais en tout cas, ça va être à notre tour. On va faire un événement avec ça. Mais il faut que je recommence mon projet vu que... J'attendais après lui, mais lui attend après moi.
Ah, exactement. Fait que pour finir aujourd'hui notre podcast ou notre balado en français, j'aimerais ça vous expliquer comment qu'on fait une gosse, vraiment les techniques de fabrication, parce que ce serait le fun d'en faire un petit peu même aujourd'hui, un peu de technique, technical technique. Fait que c'est super facile pour la recette. Souvent, on va être 50-50, 50% de Pilsner, ça je l'ai dit au début, et 50% de blé. Kevin, il a dit tantôt aussi qu'on faisait un peu de houblonnage dedans et que c'était une bière qui était salée et qui était une bière qui goûtait le sûr.
Ah, une chose importante à savoir, c'est que quand on met du sel dans une bière, il ne faut pas prendre le sel IED.
Non, IED. Fait que, si vous avez bien compris, là, j'ai dit qu'il fallait faire sûrer notre mâche. On fait ça comment, mon cave, sûrer ton mâche? Comment tu fais ça, toi, Kevin, sûrer ton mâche? Voir si t'as la technique ancestrale.
Ah, ben, ancestrale, normalement, tu fais vieillir ça pendant un an pour la faire sûrir. Mais moi, qu'est-ce que je fais de mon côté? T'as plus qu'une façon. On peut acheter déjà le brasseur.
Je veux savoir c'est quoi tu fais, toi.
OK, c'est bon. Alors, je regarde. Et que, une fois que mon mash est terminé, je vais faire bouillir mon mou pendant environ 10 minutes, juste pour tout stériliser. Je vais refroidir mon mou à 45 degrés. À partir de là, je vais prendre environ 2 poignées. Ben, on parle toujours d'un 5-6 gallons. Là.
Une stamasse.
Ben, j'ai essayé. Ça m'a pris une journée de plus.
Une stamasse.
Chacun son expérience. Et que moi, j'ai pris 2 poignées de malt.
Dans 100 litres, ça marche!
Hey!
continue ton expérience, Kev. Là, ouais,
tu veux vraiment savoir mon expérience?
Ben oui, on veut le savoir, ton expérience.
Fait que... Oui, c'est bon. T'es là? Désolé. Fait que je le prends dans un sac que je vais mettre avec un petit cordon parce que c'est plus facile à ramasser par la suite. Moi, pour pouvoir couvrir l'oxygénation, je vais mettre un saran wrap directement sur le mou et tout alentour de ma cuve. Une fois là, je vais mettre mon couvercle par-dessus. Je vais mettre du saran wrap partout pour pouvoir couper encore le
plus. Parce qu'il faut dire que Kevin, présentement, il utilise un grandfather pour faire ça. Fait que son équipement, c'est un grandfather. Si le monde ne le savait pas, ben
ouais, désolé, c'est dit. Il manque un petit bout. Fait que à ce moment-là, l'alimentation de chauffage à 45 degrés reste. Et qu'environ, la dernière fois, ça m'a pris en 26 heures. J'ai passé d'un pH de 4,5 à 3,5 en 24-26 heures.
OK, ça, c'est beau de dire un pH de 4,5 à 3,5, là, mais est-ce que le monde qui nous écoute présentement sait c'est quoi un pH de 3,5? Admettons que je te dis, je sais pas moi, de l'eau distillée, c'est combien de pH, ça? OK, c'est 7. Puis un citron, mettons, c'est combien de pH, ça?
Environ 2,5, je m'en rappelle bien.
2,6 à 2,8. Fait qu'il est un petit peu plus acide qu'un citron, puis moins que l'eau distillée. Fait que c'est ça qui est important. Souvent, quand on va parler de pH, essayez d'aller voir la ligne de pH pour savoir à quoi ça ressemble. Parce que savoir 3,6 pour le monde, Kev, là, ils savent pas c'est quoi, là. OK, ben, continue. J'ai coupé, mais continue.
Un pH de 7, c'est neutre.
Exactement.
On part à partir de là. Fait que c'est plus que ça monte, plus c'est basique, plus ça descend, plus c'est acide.
Puis là, dans les deux échelles au complet, là, quand t'es rendu à 14 ou à 0, là, même pas tes mains là-dedans parce qu'elles vont disparaître.
Ben, ça devient de l'acide. Le vinaigre, il doit être à 1 cuque à peu près, si je me rappelle bien.
Je ne me rappelle pas.
Mais en tout cas, bon, juste pour donner une idée pour au niveau de l'acidité. Avec une fois, quand on fait une surette, par exemple, c'est que quand on a atteint l'acidité qu'on veut, c'est là qu'il va falloir faire bouillir pour pouvoir arrêter la bactérie. Parce que c'est du lactobactyle qui s'est créé. Ben, on veut s'en débarrasser parce que sinon, l'acidité va continuer. Et que sinon, ça va donner trop surette. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut comme produit.
Non.
Et qu'une fois qu'on va bouillir, on va tuer toutes les bactéries. Puis c'est là qu'on va pouvoir continuer notre procédure d'ébullition qu'on va pouvoir ajouter les autres ingrédients qu'on veut dedans.
Oui, exactement. Fait que comme ça, on va être capable aussi de finir notre ébullition. Normalement, pour faire sourire un mash, ça va prendre entre 24, 48 heures, 36 dans certains cas.
Oui, ça va toujours dépendre. Il y a des gens qui vont acheter justement chez le brasseur. S'ils ne veulent pas l'utiliser des grains, ils peuvent acheter du lactobactyl en sachet par
White Lab. On a White Lab qui font une coupe de fabricants de levure qui en font des lactobacidus, whatever le nom. C'est des lactos. Et on a une autre méthode aussi de le faire. Vous pouvez prendre des petites pilules de
probiotiques
qui sont disponibles dans toutes les bonnes pharmacies du Québec et à travers le monde, j'imagine, quand tu veux avoir une belle flore intestinale. Fait que tu peux utiliser ces petites choses-là au lieu de mettre les deux poignées de grains que Kevin en met deux, moi j'en mets une. Ben c'est ça, exactement. On peut mettre ça à la place. Tu sais, quand on rouvre un yogourt, le petit jus qui est au-dessus, là, ben le petit jus, c'est des lactobacides aussi. Fait qu'on peut le mettre dans notre mash. Même processus, par contre, on va vraiment mettre un saran wrap par-dessus pour empêcher l'oxygène de pénétrer. Fait qu'on veut pas trop d'oxygène parce que sinon, ça va risque de sentir le fromage bleu. Si vous l'avez jamais fait, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça sent anti-pépère et corps et ça goûte aussi à la longue. Fait que vraiment faire attention.
C'est vrai, parce que j'étais une micro encore cet été et j'ai vécu l'expérience d'un surette qui goûtait le fromage.
C'est pas méchant, là. Je dis pas que c'est méchant, c'est juste pas voulu.
Non, parce que c'est pas le goût, c'est pas ça que tu t'attends. Si tu me dirais un exemple, « Hey, une surette goûte le fromage, puis tu sais que je vais goûter ça, ben je vais m'attendre à ça, puis c'est correct. » Mais moi, si je me jette une surette, puis je m'attends pas à ça, c'est assez ordinaire là-dessus.
C'est assez poche. L'autre chose aussi, ça fait partie un peu des styles de bière. T'sais, une surette, vous allez lire dessus, c'est pas supposé de goûter le fromage bleu nécessairement. Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais ça veut pas dire que c'est supposé de goûter. L'autre chose aussi qu'il faut faire attention quand on fait une sour beer ou une bière sûre, on va faire attention de pas utiliser trop de l'acide lactique. Le but, c'est pas de te rendre avec un pH super bas avec l'acide lactique pour avoir l'acidité de l'acide lactique si on veut faire fonctionner une lacto pour la faire descendre dans notre mash, en fin de compte. Fait que faire attention à pas trop mettre de grains acidifiés ou d'acide lactique. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez le faire, mais ça ne coûtera jamais ce que vous allez goûter présentement dans les bières, dans les bonnes bières sûres. Je pense à Oval présentement qui en font des super bonnes. Il y a aussi Pit Caribou qui s'en vient avec des produits à Pit Caribou. Excuse-moi, Francis. Pit Caribou aussi en font des bonnes. Mais Francis, avec sa nouvelle petite brasserie Brett et Sauvage, qui va faire des choses incroyables présentement avec ses cold ship qu'il appelle, dans la fermentation spontanée. J'ai vraiment hâte de goûter. J'ai pas eu la possibilité encore de goûter à sa persillade 1. Je travaille, hein, fait que je suis pas capable de me mettre en ligne pendant 48 heures. Mais s'il y a quelqu'un qui en a une à la maison qui veut me faire déguster, tout le temps disponible pour boire ça avec vous autres quand vous voulez, boys ou girls. Ça va me faire un grand, grand, grand plaisir. Par la suite, si on continue avec notre bière Ghost, quand est-ce qu'on met le sel, mon beau Kev? Quand est-ce que tu mettrais ça dans le mash, ton sel?
Moi, je le mets à la fin d'ébullition, environ à 10 minutes avant. Puis si j'ai des choses à rajouter, comme gars, ça, là, il y a des citrons confits, puis ainsi de suite, pour chercher les saveurs sans que ça soit là trop longtemps, même principe, quand on met du houblon au début, ça va donner un goût ou une amertume plus. Moi, quand je vais mettre mes fruits, mes autres ingrédients, je vais le mettre plus vers la fin pour aller chercher, mais pour que ça soit plus balancé dans le résultat.
Fait que la coriandre, le sel, puis si tu veux mettre des écorces d'orange ou dans ce cas-ci, des confits de...
5-10 minutes avant la fin.
5-10 minutes avant la fin. On pourrait le mettre aussi dans notre mash, mais j'ai jamais vu ça. Là. D'habitude, c'est vraiment fait avec ça, avec le 10 minutes avec du sel non iodé à la fin du mash. On va refroidir, comme d'habitude, notre bière, mettre notre levure. Faire attention, notre pH est vraiment bas. C'est pas toutes les levures qui sont capables de fermenter une sour ou une bière sûre. Alors, quand ton moule est trop sûr, vérifie que ta levure est capable de la fermenter. Il y a beaucoup de souches qui sont capables, Sinon, ben, viens au brasseur, je vais te montrer comment ça marche, je vais te montrer ça.
Une chance
que
t'es là.
Eh oui, une chance que je suis là, j'ai mis un petit loup d'amour. Fait que après ça, on va faire fermenter, puis on va embouteiller, on va faire la même procédure que d'habitude. Pour faire une gosse, c'est une bière qui est très pétillante, peu pétillante, moyennement pétillante, mon beau Kev.
C'est très pétillant.
Très pétillant. Fait que le 7 grammes par litre ne se joue pas dans ce cas-ci. On va mettre un 7,5, un 8. On pourrait monter jusqu'à même 10 grammes par litre. Ça commence à être très, très, très pétillant, 10 grammes par litre. J'y vais plus avec un 8,5, mettons, là, pour jouer ça safe, pour être sûr que pas ça t'explose dans la figure.
C'est pas comme si que ça nous a jamais arrivé.
Voyons donc. Une bière qui gâche, ça arrive jamais, ça.
Ah, non, j'ai... moi, j'ai fait un geyser.
Ah, j'ai plein d'anecdotes pour vous autres. Si vous vous tentez, on a-tu une autre heure à vous consacrer?
Ça va être un autre épisode.
Ça va être un autre épisode. Fait que pour aujourd'hui, je pense que ça fait pas mal le tour de la question. Vous avez un peu compris dans quel sens qu'on s'en va pour nos podcasts. Kevin, comment t'as trouvé ça comme première expérience?
Ah, moi, j'ai trippé au bout. Moi, je suis content de passer du temps avec mon ami Fitz. Puis
yeah!
En même temps, de pouvoir partager notre passion avec vous. Fait que si vous avez des questions, on voudrait faire un petit segment dans les épisodes pour ouais. pouvoir répondre à certaines de vos questions. On va se préparer un peu d'avance pour pas dire n'importe quoi. Mais on a une connaissance générale pour être capable de bien vous répondre. Puis si vous n'êtes pas content, ben...
allez voir ailleurs.
C'est ça.
On va aussi faire, on a pour les... on vous pouvez, tu sais, les gens qui sont sur YouTube présentement, qui nous regardent sur YouTube, c'est la possibilité d'écrire en commentaire, c'est l'avantage que vous avez. Si vous n'avez pas le goût d'ouvrir YouTube ou si vous voulez être sûr et certain que ça se rende puis qu'on le voit, on a un courriel pour vous. C'est podcast@lebrasseur.ca. Tous les courriels qui sont envoyés là-dessus vont être pris en compte. Si vous avez des demandes, des questions, des conseils pour nous, c'est le premier qu'on fait, hein? Fait que je suis habitué un peu plus avec les vidéos. Je prends tous les conseils. Si vous avez le goût de venir faire du son pour moi, hein, ça va me faire un grand plaisir de vous donner le podcast et vous arranger avec ça. Sinon, mais je vais faire du mieux que je peux dans la plus grande de mes connaissances.
On veut que vous ayez du fun. On veut que vous trouviez ça agréable. On est toujours là, ouvert pour pouvoir s'améliorer. Et s'il y a quelque chose que vous aimez moins, le kit, restez respectueux. Ça va être constructif.
Ouais, l'important, mais d'habitude, le monde qui me regarde là, sur YouTube, là, des perles. Fait que je sais que le monde des podcasts va être identique comme le monde sur YouTube. On va juste avoir des commentaires constructifs qui vont nous aider à nous avancer et à améliorer votre qualité sonore de votre côté. Vous allez voir le décor en arrière changer de temps en temps. J'adore le whisky. Je pense que Kev a vu un petit peu ma collection de whisky.
C'est bien.
Ça se peut qu'on fasse des petits podcasts des fois qu'après qu'on manque de bière comme présentement. Là. C'est quoi la flow si ça te donne d'en donner deux de plus pour nous autres? Surtout pour le brasseur qui a soif pas mal quand il parle. On va peut-être déguster des whisky. Si ça vous intéresse, on fera le whisky. Et je suis un amateur de cigares. Fait que si vous me suivez pas déjà sur Fitz le brasseur sur YouTube, sur Facebook et YouTube, en passant, j'ai deux channels, ben ce serait le temps parce que vous allez voir que je fume beaucoup de cigares et j'aime ça les décrire. Fait que vous allez avoir une très belle opportunité. Je sais que tu fumes pas, toi t'es beau et tes cigares. Il met ça dans sa bière. As-tu déjà vu ça, toi, un gars qui met des cigares dans la bière?
As-tu déjà vu ça, un gars qui avait une idée originale qui sortait de l'ordinaire?
Ouais, j'ai déjà vu ça. Alors, c'est tout pour le podcast. J'espère que t'as apprécié. Si tu te trouves sur Facebook, oublie pas la petite cloche parce que ça te permet de rien manquer les autres podcasts qui s'en viennent et les autres vidéos que je fais. Pour le monde sur le podcast, on va essayer d'en faire au moins deux par mois. Fait que reste à l'écoute, ça va être disponible un peu partout. J'espère que t'as apprécié le podcast. Si c'est le cas, parle-en à tous tes amis et pas peur de le partager. Puis on se voit dans un prochain podcast.
Salut.
Ciao!